Nous allons grouper ici plusieurs mitzvot négatives, de la 96 à la 100, parce qu'elles traitent d'un même sujet, à savoir l'interdiction de consommer des petits vers, des petits insectes, même s'ils sont minuscules, du moment qu'ils sont visibles à l'œil nu. On les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les poissons. Alors, j'ai ici deux ouvrages qui passe en revue en français, deux ouvrages en français qui passent en revue la plupart des aliments, et le mode d'inspection qui est propre à chacun d'entre eux, à chaque aliment, pour repérer, pour voir s'il y a des petits insectes qui sont logés dedans, et comment nettoyer ces aliments pour pouvoir les consommer de manière permise. Alors, je vais les citer, j'ai un petit ouvrage ici, qui s'appelle « Comment vérifier les aliments selon la halakha » d'après les cours dispensés par le Rav Vaillé en Israël, publié par Essen Bench, E2SEN Bench, BENCH, 8 rue Pavé, 75004 Paris, ça c'est le nom de l'ouvrage. Et le deuxième que j'ai ici, c'est un ouvrage de Madame Ruth Benchaya, il s'appelle Bedikat Tolaim, manuel de vérification des aliments, spécial Europe. Donc voilà, donc ça ce sont les noms des deux ouvrages que j'ai ici avec moi en français. Je vous conseille bien sûr de vous les procurer et de les lire et de les avoir à portée de main dans votre cuisine. Dès que vous avez une question, vous regardez dedans pour chaque aliment la manière de faire. Je vais juste me contenter de citer certains passages de base des principes fondamentaux qu'il faut savoir dans ces halakhot là. Et juste avant cela, je vais nommer d'abord rapidement les lavim, les noms des mitzvot lo ta'aseh négatives, au moins pour les avoir nommés. Donc, mitzvot lo ta'aseh 96, shelo lechol sheretz ha'of, vechol sheretz ha'of tameh ulachem lo yachlu, ne pas manger tous les insectes ailés, comme les mouches, les moustiques, les abeilles, etc. Le principe général, c'est que celui qui mange un kazaït, donc 28 grammes et quelques, il reçoit malkout, et s'il a mangé moins que cela, non, sauf s'il a mangé une bête entière. Dans ce cas-là, même s'il n'y a pas kazaït, il reçoit malkout. Il existe certaines espèces de sauterelles qui sont permises. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on peut être certain d'être certain de l'espèce en question. Ça s'applique en tout lieu, toute époque, hommes et femmes. Donc la 97, mis à tout assez chez le lérol, Micheret Saharetz, sont tous les rampants qui traînent par terre, comme bien sûr tous les vers de terre, etc., même le serpent, etc. Et là aussi, c'est le même principe. Tous les vers qui se trouvent dans les fruits et les légumes, 98, 99. Tous ceux qui se trouvent dans l'eau. Alors aussi, ça inclut bien sûr tous les mollusques, comme l'interdiction de manger des huîtres, des moules, des crevettes, des homards. Tous les poissons qui n'ont pas de nageoire ni écailles, les grenouilles, etc. Et 100, négatif 100, mis à tout assez chez le lechol, remassim. Interdiction de manger également tout ce qui est des rampants sur la terre. Alors, je vais citer donc ici quelques principes de base très importants dans les livres que je vous ai dit. Alors, ici dans le livre de Essen Bench, il dit l'interdit relatif à la consommation d'insectes est l'un des plus sévères de la Torah. À titre de comparaison, une personne qui consommerait un morceau de viande de porc enfreindrait un seul interdit de la Torah, alors que celle qui ingérerait ne serait-ce qu'un minuscule insecte transgresserait 4, 5, voire 6 interdits en fonction du type d'insecte. Et là, on va donner un moyen mnémotechnique. Les insectes qui sont aquatiques, comme se trouvaient dans les poissons, il transgressera 4 interdits, c'est-à-dire que ça a été répété 4 fois dans la Torah, cette interdiction. Insectes rampants, comme un ver dans une cerise, 5 interdits. Insectes ailés, comme un moucheron dans une salade, 6 interdits. Donc on voyait le moyen mnémotechnique, c'est on part de la terre, c'est 4. De la mer qui est plus bas, c'est 4. Après la terre, c'est 5. Et quand c'est ailé, ça monte plus haut, c'est 6. Les interdits transgressés se voient multipliés par le nombre d'insectes présents dans un même aliment. Parce que s'ils mangent 3 fois un insecte, si c'est un insecte aquatique, ça va 3 fois 4, 12 interdits. Si c'est un insecte ailé, 3 fois 6, 18 interdits qu'il aura transgressé. Ce qui signifie en clair qu'une personne peut transgresser un grand nombre d'interdits en consommant un aliment non préalablement vérifié, par simple défaut de précaution, alors que la même personne ne consommerait pour rien au monde le moindre morceau de porc ou de viande non cachère. Donc on voit ici la gravité de manger cela. Maintenant, on va démontrer qu'il y a une influence néfaste sur la personne, surtout au niveau de sa neshama, peut-être même au niveau de sa santé, on va voir ici. Premièrement, Timtum Alev, le pasouk dit Al teshaketsu et nafshotechem bechol asheretz ashoretz al haaretz velotitam ubam venitmetem bam. Donc ne vous souillez pas à travers toutes ces créatures rampantes, ne vous souillez point par elles car vous vous rendrez impurs. Alors le mot impur, venitmetem bam, normalement en hébreu est écrit avec un aleph. Mais ici dans le pasouk, il ne porte pas le aleph, il n'y a pas la lettre aleph. Dans le traité talmudique Yoma, Rabbi Shmuel dit ne lis pas venit metem, vous vous rendrez impur, mais vntantem, vous fermerez. Ça vient du mot timtum, sans le aleph, qui veut dire se fermer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture consommée devient partie intégrante de la personne qui l'absorbe et influe sur son âme. Ainsi, notre Créateur nous a interdit la consommation d'aliments qui portent atteinte à l'intégrité de notre personne, à savoir notre corps, notre cœur et notre âme. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son ouvrage Mesilat Yesharim, identifie les aliments interdits au poison. Et le Rav Eliyahu Lopian ajoute, de la même façon que le corps devient mal portant après avoir ingéré une nourriture avariée, ainsi la personne est spirituellement altérée à travers la consommation d'aliments interdits. Ça veut dire que ça va avoir une influence sur la pensée. Nos sages nous ont révélé que les aliments interdits altèrent aussi l'intelligence de la personne, affaiblissent sa perception de Dieu et peuvent aller jusqu'à porter atteinte à sa foi. C'est comme un virus qui rentre dans la personne, qui attaque sa neshama, et donc ça peut le faire quitter la Torah. Beriyut Haguf, même au niveau de la santé physique, les lois relatives à la nourriture dans la Torah ne constituent pas des lois médicales, mais il va sans dire que ce qui est préjudiciable à l'âme l'est également au corps. L'interdiction de consommer du porc en est un exemple édifiant. En effet, il a été prouvé médicalement qu'un ver appelé trichine est présent dans la viande de porc et qu'il peut entraîner la maladie du même nom. De même, de nombreux chercheurs ont établi que le fait de consommer ou seulement entrer en contact avec des insectes pouvait entraîner diverses allergies. Gam Neshama, le commentaire qui s'appelle le Kli Yakar, indique que les aliments dont la consommation est interdite par la Torah sont préjudiciables à l'âme car elle la souille et la détache des concepts de pureté et de sainteté. Donc on voit ici toutes les conséquences négatives que peut avoir l'absorption de tous ces insectes. Et là, je vais citer quelques principes de halakha qui sont ramenés dans le livre de Madame Ruth Ben Chaya Abdikat Tolaim. Quelques principes de halakha d'après Rabbi Falk Shlita. Alors, il existe la notion de bitoul, la notion d'annulation, c'est-à-dire que quelque chose d'interdit peut être annulé, et une fois qu'il a été annulé, même s'il est présent, s'il est broyé par exemple, il devient permis. Alors, ça s'appelle bitoul beshishim, c'est-à-dire qu'un aliment mélangé à 60 fois plus d'aliments permis, donc, est de ce fait considéré comme disparu, dans la mesure où il a été broyé. Mais par contre, si c'est une bria, s'il est à l'état entier, même si c'est un minuscule insecte, mais qu'il est entier, dans ce cas-là, il n'est jamais annulé. Même s'il y a 60 fois plus, même 100 fois plus, même 1000 fois plus d'aliments cachers, il n'est jamais annulé. Mais s'il a été réduit en morceaux non reconnaissables, il est annulé. Par exemple, un ver broyé dans une confiture mixée, acquise dans le commerce, sera permis étant donné qu'il a été broyé, donc on ne le reconnaît plus. Et même si on sait qu'il est présent, mais le fait qu'il a été broyé, il n'est plus reconnaissable. Et en plus, il y a 60 fois plus de produits permis, fait que maintenant, on peut consommer tout l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation. Mais on n'a pas le droit, l'echatrila, enmevatlini sur l'echatrila, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, a priori, de pouvoir nous-mêmes annuler un interdit. Je n'ai pas le droit de prendre un interdit, de le mettre et de le broyer pour dire avoir essayé. C'est si ça a été fait par des goyim ou des gens, ou des goyim qui avaient le droit de faire ça, parce que les goyim, eux, ils ne sont pas soumis à ces interdits. Donc eux, ils avaient le droit de faire ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Une confiture faite par eux, on pourra la manger. Ou bien un juif qui a fait ça involontairement, il a annulé de cette manière-là, a posteriori, on pourra consommer avec cette halakha de 60 fois plus. Maintenant, aussi une petite précision halakhique sur l'obligation de l'abdika, de l'abdika, c'est-à-dire de l'inspection. Alors, il y a une obligation, il dit ici, d'après la Torah, pour des aliments qui sont considérés comme souvent contaminés. Ça s'appelle Mourzak Betolim, parce que dans ces livres-là, on apprend qu'il y a des aliments qui sont souvent contaminés, d'autres qui le sont moyennement, d'autres qui le sont très peu, d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que c'est important de consulter à chaque fois. Dès lors qu'il y a plus que 50% de risque ou plus, comme par exemple la laitue, la bédica de ce type d'aliment, est obligatoire, et en plus, elle ne peut pas être confiée à un non-juif, ni à un enfant, ni à un individu dont on sait qu'il ne sera pas scrupuleux dans ce domaine. Par contre, si c'est un aliment qui est considéré comme parfois contaminé, miuta matsui, c'est-à-dire en fait c'est une minorité, c'est moins de 50% de cas qui sont touchés comme dans cette espèce d'aliment, mais c'est très fréquent. C'est-à-dire c'est vrai que c'est une minorité, mais elle est fréquente, ce qu'on appelle miuta matsui. Par exemple, il cite ici la prune, le chou rouge, etc. Dans ce cas-là, un enfant intelligent, digne de confiance, peut faire l'abdika. Voilà. Ensuite, il précise que les méthodes... Ah oui, alors, il y a aussi ici quelque chose de très important à dire, c'est que même dans certains aliments qui sont considérés comme propres, alors par exemple, souvent on entend dire que les endives sont propres, n'ont pas besoin d'être vérifiées. Moi je vous rappelle ici, je vous rapportais ici des propos d'un ami qui m'a confié qu'une fois il était invité à une réception avec un traiteur réputé religieux, bien réputé dans le monde religieux, et les endives étaient infestées. En effet, si je peux me permettre, je vais faire la remarque suivante. Même si on va dire que les endives sont touchées une fois sur 10, on va dire, imaginons, eh bien, très bien. Alors, je vais dire, c'est pas la peine de les vérifier parce que c'est une fois sur 10. Si j'en mange 10 fois, forcément, il y aura une fois où je vais tomber dedans. Donc, bien évidemment que c'est ridicule de s'appuyer sur un principe comme ça pour pas faire l'abdika. Cela serait vrai si la personne mange une fois dans sa vie des endives. Donc elle pourrait dire, bon, bah, c'est une fois sur 10, je ne suis pas obligé, etc. Mais comme si elle en mange régulièrement, évidemment qu'elle doit les passer, elle doit les regarder, les observer, les passer sous l'eau, comme c'est expliqué dans ces livres-là. Et on précisera enfin que les méthodes de vérification impliquant de trier, éliminer les insectes, tout ça, ne peuvent pas être exécutées le Shabbat, ou en tout cas que sous certaines conditions. Parce que d'abord le Shabbat, on n'a pas le droit de tuer les insectes, et voilà, je vais juste citer par exemple l'abricot. Ici dans ce livre-là de Ruth Ben Chaya, page 35, il dit par exemple, méthode d'inspection, de simples points bruns ou noirs ne doivent pas vous inquiéter sur la peau. Cependant, si à la pression de l'ongle, ils se détachent sans déchirer la peau, il s'agit de cochenilles et il faut veiller à bien les ôter. Laver l'abricot extérieurement, puis le couper en deux, retirer le noyau et vérifier. Si l'abricot est très mûr, retournez la chair vers l'extérieur afin de mieux l'examiner. Voilà, c'est un exemple, donc, mais il faut se procurer au moins un de ces ouvrages pour voir les méthodes d'inspection de chaque type d'aliment. Nous avons terminé les mises négatives 96 à 100.